Eh bien, bienvenue dans la deuxième partie d'émission d'Ondes Noires pour vous parler de quelques livres que nous avons particulièrement appréciés. Et je vais y aller direct en vous parlant d'un grand coup de cœur qui s'appelle « Un hiver de glace » de Daniel Woodrell. C'est paru, il me semble, il y a 2-3 mois chez Rivage Thriller. On cite toujours, donc on précise, c'est la grande collection de Rivage. Pour la somme de 17 euros, vous avez un superbe texte dont la traduction est de Frank Reichert. J'espère que je prononce bien son nom. Donc ici, on fait la connaissance de Ray, R2E, j'avoue, pareil pour la
Ray. Oui.
Ridley, qui a 16 ans et qui vit dans une bicoque aux confins du Missouri et de l'Arkansas, dans un endroit des États-Unis qui s'appelle les Ozarks. Petite parenthèse, c'est là où d'ailleurs est né et où vit Daniel Woodrell.
Un genre de trou du cul du monde.
Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas que l'endroit qui a un sacré trou du cul. Mais enfin, bon. Donc, Daniel Woodrell connaît bien cet endroit-là. Et ce personnage, il en a rencontré apparemment, Ri, 16 ans. Elle doit s'occuper de sa famille, sa mère qui est à moitié folle, ses deux chenapans de frères, plutôt sympas ces frangins, 10-12 ans, mais bon, il faut les tenir. Et elle doit s'occuper de sa famille parce que son père, Jessup, il a carrément disparu au volant de sa Capri bleue. C'est important qu'il y ait une Capri bleue. Et son père, en fait, il a disparu parce que c'est un trafiquant de drogue, qu'il est sous le coup d'une arrestation et il disparaît. C'est pas facile de vivre dans cette région toute seule. Le trafic de drogue, c'est le destin tout tracé quand on est une Dolly, quand on appartient à cette famille. Et pour rester dans le droit chemin, il faut vraiment le vouloir, quoi. Surtout que les prêteurs sur gage qui avaient avancé la caution du père de Ray, donc de Jessup, la menace d'expropriation en plein hiver, d'où le titre, un hiver de glace, si son père ne se présente pas au procès. Donc, en plein hiver, là où la glace semble plutôt moins dure que le cœur des habitants de la région, Ri doit coûte que coûte retrouver son père. En fait, d'ailleurs, elle s'en fiche de le retrouver mort ou vivant, puisque s'il est mort, de toute façon, le procès s'arrête de lui-même. C'est pas la première fois que Daniel Woodrell parle de l'endroit où il vit, les Ozarks. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment le trou du cul du monde des États-Unis. Il fait pas bon être dans les Ozarks, et même une jeune fille de 16 ans doit se battre pour survivre dans la misère et tenter d'échapper aux coups qui pleuvent sur son échine, telle une bête de somme. Et là, c'est vraiment pas une métaphore. Il y a une scène d'une violence inouïe où des femmes d'une autre famille la mettent en pièces sur le sol gelé. C'est très très dur, mais la scène est très importante à la narration du livre. Telle des bêtes, en fait, parce que la pauvreté a transformé ces gens en animaux. En fait, ils n'ont plus qu'une chose, c'est l'instinct de survie, y compris chez les femelles du groupe, comme je le disais tout à l'heure. Et ça prime vraiment sur tout autre sentiment. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'on est vraiment bien loin du tableau idyllique des grands espaces américains, où on est pourtant, il doit y avoir des coins chouettes dans le coin, enfin, surtout l'été apparemment, et de ce qu'on appelle l'American Way of Life. L'auteur nous ramène à la dure réalité et nous raconte, nous narre avec beaucoup de talent, beaucoup de sensibilité, les maltraités de la vie. Ceux qui essayent encore et toujours de se débattre sans jamais avoir l'espoir de s'en sortir. Quoique, comme d'ailleurs dans tous les romans de Daniel Woodrell, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Mais cette lueur d'espoir, c'est plus pour survivre plutôt que pour vivre vraiment. Alors, deux petites anecdotes à propos de Daniel Woodrell que nous avons rencontré il y a une quinzaine de jours à Lyon, qui arrivait justement de sa campagne encore glacée par l'hiver. C'est que ces livres aux États-Unis ne marchent pas très bien. Et une des raisons pour lesquelles ils ne marchent pas très bien, m'a-t-il expliqué, c'est que dans les grandes villes et dans beaucoup d'endroits, ces gens ne croient pas à ces personnages. Ils sont persuadés qu'ils sont inventés de toutes pièces et que dans ce merveilleux pays qu'est les États-Unis, ne peut pas vivre des gens comme ceux qu'ils décrivent, ou d'ailleurs ceux que décrivent James Lee Burke ou Jim Harrison, qui sont des auteurs qui sont très très proches actuellement de Daniel Woodrell. La deuxième anecdote, c'est que il a été très content il y a quelques années d'avoir un de ses livres dont je ne me souviens plus le titre, qui a été adapté par Ang Lee
au cinéma
et le film s'appelle
Chevauché avec le diable.
C'est le
livre et le film aussi d'ailleurs. Je
pense. Le film aussi en français s'appelle Chevauché avec le diable. Donc c'est une manne hein, quand on achète un scénario, quand Hollywood achète un livre, ça fait quand même des sous. Donc Daniel Woodall s'est dit chic, peut-être que je vais en vendre d'autres. Sauf que c'est impossible. Parce qu'à chaque fois que Hollywood tente de scénariser un livre de Daniel Woodrell, on a une happy end, on a une fin absolument mirifique, et Daniel Woodrell ne reconnaît absolument pas ce qu'il veut raconter dans ses livres. Donc, il ne vend plus ses livres à Hollywood, et bientôt, il a plus beaucoup d'argent, quoi.
Ce qui est d'ailleurs un des mérites de Ang Lee quand il a adapté ce roman,
c'est de l'avoir fait participer.
À peu près, d'avoir pas trop. D'abord, il a fait participer au scénario, et il a pas extrêmement changé la fin, quoi.
Voilà, donc on passe, Jacques, à autre chose.
Un roman de William Boyd, donc, qui est un auteur que...
Très connu du public, mais pas pour des polars.
Pas pour des polars, et en fait, on a lu pas mal, et là on s'est précipité dessus, parce qu'en plus, c'est un polar, c'est surtout, disons, un roman d'espionnage. Donc ça s'appelle La vie aux aguets, c'est paru comme tous les romans de William Boyd, aux éditions du Seuil. Il a été traduit celui-ci par Christian Bess. Donc c'est Ruth Gilmartin, qui est une jeune femme qui tente de finir sa thèse d'histoire en donnant des cours particuliers d'anglais à des étudiants étrangers. L'histoire se passe en 1976, en été, il y a une grosse canicule. Un beau jour, alors qu'elle va rendre visite à sa mère,
sa mère lui remet
un manuscrit qui lui révèle en fait que son vrai nom est plutôt Eva Delektrovskaya.
Oui, puisqu'en fait, son nom actuel, c'est Sally. Excuse-moi.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, elle ne s'appelle pas Sally, elle s'appelle Eva Delektrovskaya. Et que durant la guerre, une grande partie de la dernière guerre, dans 39-45, elle a été espionne pour le compte des services britanniques. Alors, Ruth, au début, elle se dit, ça y est, ma mère, elle est un peu barjote. Elle me raconte n'importe quoi. Elle n'y croit pas vraiment. Et puis, en fait, elle commence à lire le manuscrit en entier, que sa mère lui remet par petites touches. Et elle se rend compte que c'est vraiment vrai. Et sa mère lui raconte tout, donc depuis le recrutement en France, par un certain Lucas Romer, qui est un homme étrange et séduisant, qui sera à la fois son formateur, son chef, son amant, et bien d'autres choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Alors dans l'histoire, on suit alternativement la vie de ces deux femmes, Ruth, qui vit donc sa vie à Oxford, qui donne des cours à des étudiants étrangers, et sa mère, cette nouvelle femme qu'elle découvre, avec ses aventures, parce qu'effectivement, quand on a été espionne pendant la guerre, c'est de véritables aventures qu'elle raconte. On découvre en même temps, c'est assez intéressant, un épisode un peu connu, du moins, en tous les cas, moi je ne connaissais pas, c'est comment les services secrets anglais, enfin britanniques, ont manœuvré les Américains, à coup de fausses nouvelles, tout ça, ils avaient plus de 200 personnes qui étaient chargées de ça pour les faire rentrer dans la guerre, parce que les Américains ne voulaient absolument pas... l'opinion américaine ne voulait absolument pas aller dans la guerre. Et Roosevelt, il était tenté, mais il ne voulait pas aller contre. Bon, et puis finalement, c'est les Japonais qui ont réglé tout ça de façon un peu brutale. Donc, deux personnages de femmes captivantes, deux destins sur lesquels plane à chaque fois l'ombre de Lucas Romer, justement, cet homme dont on entend parler tout le long, d'abord par la mère et puis ensuite par la fille. Et Eva, dont la vie est désormais derrière elle maintenant, puisqu'elle a atteint un âge raisonnable, mais elle ne veut absolument pas quitter ce bas monde sans avoir réglé tous ses comptes. Et Ruth, elle, qui est mère célibataire, donc elle a une vie un petit peu difficile, historienne en devenir, mais sa vie justement bascule un peu du jour au lendemain en apprenant l'histoire de sa mère. Et il y a aussi donc ce personnage mystérieux, parce qu'il faut toujours un personnage mystérieux dans les romans...
Surtout d'espionnage, pas forcément d'espionnage, dans les polars.
Non, là, il faut un personnage mystérieux, ce Lucas Romer, dont on apprendra beaucoup de choses. Donc, comme toujours avec Boyd, il faut que je finisse rapidement, c'est un pur délice, ces romans de William Boyd. C'est hyper anglais. C'est difficile de faire plus anglais que ça.
Un humour très
voilà,
british.
C'est très drôle et toujours très sérieux. Là, il se lance dans l'espionnage. Alors, on se dit, il va faire un peu de Graham Greene. Il fait un petit peu de Graham Greene. Il fait un petit peu du John le Carré. Mais en fait, au résultat, il fait surtout du William Boyd. Quoi.
Et il a bien raison.
Il a bien raison parce que c'est magnifiquement écrit et c'est passionnant du début à la fin. Donc,
Alors, quand William Boyd est interviewé sur ce livre, il dit qu'en fait, il n'a pas fait un roman d'espionnage différent des romans qu'il fait d'habitude. C'est tout simplement que lui, une des thématiques qu'il développe dans chacun de ses romans, c'est les apparences. Et donc, évidemment, l'espionnage correspond totalement aux apparences et aux faux semblants et aux personnages, aux étiquettes qu'on se met au fur et à mesure. Donc,
un petit peu de musique.
En hommage à Claudine Galéa.
Voilà, qui c'est elle qui nous avait choisi Patti Smith. Et donc, du coup, j'ai choisi dans son dernier album excellent qui vient de paraître une chanson qui s'appelle White Rabbit, dont on parlera un petit peu après. Donc, Patti Smith, White Rabbit.
Donc Jacques, rapidement, tu...
Oui, je rappelle, donc White Rabbit, extrait du dernier album de Patti Smith qui s'appelle 12, parce que c'est 12 reprises de chansons que elle et son groupe ont adorées. Et je ne doute pas qu'il sera dans la playlist d'Agora, donc on aura l'occasion d'en reparler plus tard, ou moi ou quelqu'un d'autre.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui détonne un petit peu dans la planète Polar, parce qu'on n'a pas souvent des traductions... qui nous viennent de Turquie, au niveau des polars, hein, on ne va pas parler de la littérature d'autres grands auteurs turcs. C'est un livre, j'espère ne pas écorcher le nom, de Mehmet Murat Somer, qui s'appelle « On a tué Bizou », qui est traduit du turc par, excusez-moi encore de la prononciation, Gökmen Yilmaz, et c'est publié dans ce que je suis en train de penser être une des meilleures collections de polars, une récente collection de polars qui est Acte Noir chez Acte Sud. On connaît la qualité des éditions Actes Sud, mais Actes Noir est en train de faire un superbe travail éditorial et j'espère pouvoir en parler bientôt avec son directeur de collection. Donc, c'est dans un quartier d'Istanbul très chaud que se passe ce livre. C'est le quartier des prostituées et des travestis. Et justement, le narrateur, le jeu, c'est un travesti qui s'occupe d'un club dans ce quartier. Ce qui est rigolo, c'est qu'il s'habille en homme le jour, il s'occupe d'informatique, c'est même un bon informaticien, et le soir, il tente désespérément de ressembler à Audrey Hepburn avant de rejoindre la boîte dont il est moitié propriétaire. Bisou, du titre, c'est une de ses filles, entre guillemets, à la poitrine siliconée, et peu de temps après lui avoir dit qu'elle avait un secret, elle est assassinée. Une de ses voisines aussi, à Bisou, est assassinée. Et donc lui, il ne peut pas faire autrement, le jeu narratif, d'essayer de comprendre l'affaire afin de protéger son business, ainsi aussi que la mère de Bisou qui a disparu mystérieusement. Alors mystérieusement, il y a plein de choses, des personnages qui rôdent autour de la défunte, entre autres Sureya Ronat, qui est chef du parti ultra-conservateur, ou bien encore Sophia, qui est un vieil homosexuel, et Mère Mackerel dans l'âme, qui a une très très vieille histoire avec le travesti personnage principal. À moins que les meurtres n'aient été commandités par une des nombreuses célébrités que fréquentait Bisou. Et puis il y a aussi Hussein, chauffeur de taxi trop gentil pour être tout à fait honnête, sans oublier Hassan, un des oubliés du club. Bref, la vie n'est pas rose pour un homosexuel cet été-là dans le secteur chaud, très chaud, de Beyoğlu. Voilà, c'est un roman que je recommande fortement, un roman alerte et enlevé, dont le but n'est visiblement pas de nous intéresser à l'enquête, fût-elle dans les milieux gays d'Istanbul, mais plutôt de nous divertir aux aventures du narrateur. On a tué Bisou, Mehmet Murat Somer, chez Actes Noir, dans la collection Actes Sud. Voilà, j'ai oublié, j'ai pas dit le prix, je le sais pas, je le trouve pas, 21,80€. Juste à temps pour vous dire au revoir et vous souhaiter de bonnes lectures pour les semaines à venir.
Voilà, et à très bientôt.
Tard, hier au soir, t'as rencontré les flicards.